BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on ne travaille pas assez, c'est pour ça qu'on est là le week-end de Pâques. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, alors week-end prolongé en plus, fantastique. Une émission exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va refaire le point sur encore une semaine complètement dingue, riche en événements, sur l'économie, sur les marchés, sur votre argent. Une semaine encore marquée, bah, évidemment, par les droits de douane, par Trump, on n'arrête pas d'en parler, mais aussi par François Bayrou. Non, oh, qui a rigolé là? Il y a des gens qui ont rigolé autour du plateau. Aussi par Christine Lagarde, qui a rigolé? Par la BCE, par la bataille qui est menée entre le président américain et le patron de la Banque centrale. Enfin, voilà, on va essayer, comme d'habitude, de s'élever un tout petit peu au-dessus du bruit et de l'hystérie collective pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, au sommaire aujourd'hui, la phrase de la semaine, elle est de François, la dette menace la survie de notre pays. Est-ce que c'est vrai? La question macro, comment l'Europe peut-elle s'en sortir? Parce qu'elle est vraiment coincée aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine qui va déverser tous ses produits. Le chiffre de la semaine, c'est 8%, la baisse du dollar depuis le début de l'année. La stratégie de Trump sur le dollar n'est pas très claire, mais par contre, son impact est très clair. En deuxième partie de l'émission, évidemment, bah, qu'est-ce qu'on fait avec la bourse? Est-ce qu'on continue à acheter? Est-ce qu'on panique? Est-ce qu'on prend son temps? Est-ce qu'on est prudent? La question d'argent, c'est dans le contexte actuel, quelle allocation d'actifs et quel placement privilégié? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, vous verrez qu'il y a des surprises et les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Certains le considèrent comme le pape de la gestion value en France. William Egan, vous êtes fondateur d'Indépendance AM. C'est quoi? Bah d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu. C'est quoi la gestion value?
Alors, la gestion value, ça démarre en disant qu'on n'est pas capable de prévoir l'avenir. Dans ce cadre-là, pourquoi acheter des sociétés très chères si on n'est pas capable de prévoir ce qu'elles vont faire? Donc on achète des sociétés mal valorisées et comme on veut avoir une petite chance supplémentaire qui ont une forte rentabilité des fonds propres.
Alors, on va pas commencer, on va en parler tout à l'heure, mais il y a des sociétés mal valorisées qui restent?
Oui, mais comme il y a des sociétés très bien valorisées qui s'effondrent.
D'accord, mais vous n'avez pas dans votre portefeuille, alors c'est pas le cas puisque vous avez de très belles performances, mais vous avez des cas de figure. Je prends un exemple, c'est Stellantis. Stellantis, ça fait des décennies, avant c'était Peugeot, qu'on nous dit elle est mal valorisée. C'est value Stellantis, non?
Là, aujourd'hui, oui.
C'est value, mais ça peut rester value pendant 10 ans. C'est pas grave?
C'est pas grave parce que statistiquement, les autres valeurs se permettront de l'avoir.
Très bien. On va en reparler tout à l'heure sur les styles de gestion et les placements à privilégier. Il apporte la dose de compétence et de sagesse dont nous avons besoin dans le brouillard et l'agitation économique actuelle, même si on n'est jamais d'accord. Hervé Goulet-Kier, vous êtes advisor, j'ai enlevé le senior, ça m'énervait, d'Accuracy. J'espère qu'Accuracy m'en voudra pas. Je trouve qu'à notre âge, avec la couleur de nos cheveux, il faut arrêter de dire senior advisor.
Ce que je propose, c'est que la prochaine fois, on se teigne, Marc.
Allez, j'ai essayé. Alors, je peux vous dire que j'ai essayé et on m'appelait Orlando. Donc, il trace sa route tranquillement dans ses marchés agités depuis quelques semaines sur le podium de gérant. Mais est-ce qu'il le sera encore aujourd'hui? Eric Glenn, bravo. Hein, vous êtes directeur général de Swiss Life Banque Privée. Belle performance depuis quelques mois.
Vous avez oublié l'adjoint aussi, là.
Adjoint, directeur général adjoint de Swiss Life Banque Privée.
Il enlève tout aujourd'hui.
D'accord. Pourquoi? Parce que le directeur général,
c'est jamais,
il gueule.
Il peut se fâcher, ouais.
Il peut se fâcher, il ne faut pas le fâcher.
Il ne faut pas le fâcher. En Suisse, il ne faut pas fâcher les gens. On est très
ouais, jamais. Mais il ne se fâche jamais en Suisse, non?
On ne sait jamais.
Elle court. C'est la championne du triathlon économique. Toujours un plaisir de l'avoir sur le plateau. Valentine et nous, vous êtes devenue une star de BFM, responsable de la stratégie ITO chez Amundi Institute.
Bonjour Marc.
Vous êtes une star.
Merci.
C'est bien. Ça fait quoi? Ça fait dans la rue, on vous arrête ou pas?
Ça m'est arrivé.
Ah oui?
Ouais, c'est surprenant.
Alors,
la première.
Alors, c'est sympa?
Ma fille était ravie.
Vous pouvez frimer avec vos enfants. Allez, on passe tout de suite à la phrase de la semaine. Elle est du bon François. La dette menace la survie de notre pays. Bah oui, on est malade. C'est François Bayrou qui le dit. La situation est intenable. Du fait du déficit et de la dette, le pays doit réagir. Et il a trouvé la solution. Il faut travailler plus. Hervé Goulet-Kier, est-ce que notre situation est réellement dramatique?
Elle est très préoccupante. C'est peut-être mieux que dramatique, mais ça s'approche. En fait, on a un déficit autour de 6 points de produit intérieur. On a une dette supérieure à 110 points de produit intérieur. Le tout dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de croissance, où on a des prélèvements, les impôts, les cotisations sociales, parmi les plus élevés d'Europe, voire du monde. Dans ce contexte-là, remettre de l'ordre dans les comptes publics, c'est juste un peu compliqué. Jouer sur les impôts, ça ne peut être qu'à la marge. Jouer sur les dépenses, socialement, politiquement, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, il y a un certain nombre de contraintes qui apparaissent, qu'elles soient au niveau de la défense, qu'elles soient au niveau de l'environnement ou du vieillissement. Donc oui, la situation est compliquée. Et lorsque l'on nous dit qu'on va réduire le déficit de 0,4 points de produit intérieur cette année et jurer cracher de quasiment 0,6 ou 0,8, je ne sais plus, l'année prochaine, avec la croissance qu'on a, avec la remontée de la charge de la dette qu'on a, c'est compliqué. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est dans une trappe et que ça ne marchera jamais ? L'histoire et la géographie nous disent que c'est possible. L'histoire, on parlait avant l'émission du général de Gaulle. Le général de Gaulle arrive en 1958, Pinay-Rueff. Eh bien, on a un programme et on arrive à retrouver un excédent budgétaire pendant 7 ans, je crois, jusqu'en 1966. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on assure le financement de la dette, c'était le premier point du plan Pinay-Rueff. Deuxièmement, on réduit pas mal les dépenses, on augmente un peu les impôts. Troisième élément, et là ça rejoint Bayrou, on essaie de créer les conditions de plus de croissance économique. Il n'y a pas de réussite.
Il y en avait plus qu'aujourd'hui.
Oui, mais enfin, à cette époque-là, il y avait plutôt elle flanchait un peu, okay. Il y avait la guerre d'Algérie, qui n'était pas très bonne sur l'inflation, et l'inflation pesait sur la croissance. Et quatrième point, on a un pouvoir politique qui est capable de mener le pays. Voilà les conditions. Quand
mais
vous prenez...
Mais là, une fois que vous avez dit ça, on a bien compris que François Bayrou n'est pas le général de Gaulle.
Ça, vous devez avoir raison. Mais si on prend tous les éléments, assurer le refinancement, c'est important, donc pas de mauvais discours avec les marchés, et créer les conditions de plus de croissance. Et en France, et là, Bayrou a raison, qu'il soit de Gaulle ou pas, il faut travailler plus.
D'accord. Ce qui m'étonne le plus, et je le disais vendredi matin sur BFM, c'est qu'on ne parle pas de crise économique quand on parle de la France. Mais moi, ça me choque parce que je me dis, si on parlait de crise économique, il y aurait un sentiment d'urgence. Or, on voit que François Bayrou dit, bon, les solutions, je vais commencer à les présenter dans 3 mois. Comme si 3 mois, ce n'était pas important, alors que 3 mois pour un chef d'entreprise qui n'a pas de croissance, à cause de l'incertitude liée à la dissolution et maintenant au droit de douane, c'est une catastrophe.
Alors, on a un niveau d'incertitude qui est très fort, et pour moi, c'est pas juste une histoire des 2-3 prochains mois, hein. Ça va être vraiment pour les prochains trimestres. Ce qui pèse vraiment, sur les marchés financiers, il n'y a pas vraiment de stress, hein. On regarde l'écart de taux.
Je parle de crise économique.
Ouais. L'écart de taux entre la France et l'Allemagne reste stable. Mais ce qui vraiment pèse sur l'économie, c'est l'incertitude sur la trajectoire fiscale. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui
Pas que ça.
C'est déjà beaucoup. Puis après, il y a l'incertitude sur la politique de droits de douane. Il y a l'incertitude aussi.
Mais pourquoi on ne parle pas de crise ? C'est ça. Je cherche pas à labelliser le truc, à mettre un label, un tampon. Mais c'est une crise économique ou pas ?
Pour l'instant, on est sur une croissance économique fragile. On ne parle pas de récession. On est sur une croissance économique fragile. Et ce qu'on a du mal à voir en France, c'est plutôt un modèle économique à moyen terme. Pour l'instant, on n'est pas en récession en France. Et le vrai changement par rapport à l'année dernière, parce que sur le budget 2025, on n'a pas réussi à impulser un changement. On continue de dépenser plus et on continue d'imposer plus, avec une fiscalité qui continue de s'alourdir sur les entreprises. Le vrai changement maintenant, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on va devoir dépenser plus pour notre défense. Mmh. Et ça, c'est le vrai changement. De l'ordre de 30 à 40 milliards pour les prochaines années.
Donc qu'il nous manquait déjà 40 à 50 milliards par an, voire 100.
Voilà, et puis dès qu'on veut baisser les dépenses de 10-15 milliards, on voit tout de suite que ça fait quand même beaucoup d'émules. Et là, qu'est-ce qu'on se dit ? Mais on va devoir augmenter nos dépenses sur la défense de 30 à 40 milliards. Donc il va falloir les trouver dans un contexte.
Donc on est mal barré quand même. Hein. Éric Blaine.
Ça ne va pas être évident.
Moi, je trouve que économiquement, il y a plus d'urgence qu'on ne le pense aujourd'hui.
C'est ce que je pense aussi.
Pourquoi ?
Moi, je pense qu'il y a une crise.
Il y a une crise, oui.
Ouais.
Quand on entend 2 déclarations cette semaine de grands patrons français, il y a urgence, faut se réveiller, quoi. Bernard Arnault à l'Assemblée générale de LVMH nous explique qu'il faut se réveiller si on veut pas que les entrepreneurs d'aujourd'hui aillent investir aux États-Unis. Ouais. Il dit réveillez-vous parce que maintenant l'investissement, je vais le décider maintenant. Donc réveillez-vous, sinon ça sera une grande faute de l'Europe. Et on a Olivier Andrés, le patron de CEO, le patron de Safran, qui nous explique cette semaine qu'il ne veut plus investir dans les villes gérées par un maire dirigé par un écologiste. Pourquoi ? Parce qu'il a été empêché en fait d'investir récemment dans une usine de turbines qui se trouve près de Rennes. Mais ça veut bien dire qu'il y a urgence, quoi. Il faut se réveiller.
William Higgins, votre métier, c'est de bien gérer de l'argent. Quand vous voyez la gestion des dépenses publiques par l'État, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Disons, il y a de la démagogie, mais les Français le veulent. Et donc, les hommes politiques se disent, si je fais pas ce que mes électeurs veulent, je ne serai pas réélu, et la personne qui va être élue à ma place fera pire.
Donc, vous dites qu'en fait, c'est nous-mêmes Français qui demandons à dépenser plus et à faire moins d'économies.
Non, plus une mauvaise foi totale, parce que là, on a encore parlé du déficit de l'État par rapport au PIB. On devrait parler du déficit par rapport aux dépenses. Et là, si on disait simplement on ne couvre que 80% des dépenses, peut-être qu'il y aurait un sentiment d'urgence. Mais tant que tout le monde parle en pourcentage du PIB, ouais, tout le monde s'endort.
Il y a crise économique, j'insiste là-dessus, excusez-moi, Hervé.
Alors, moi, je pense qu'on frôle la crise économique parce que Valentine nous dit on n'est pas en récession, mais on est quand même passé très rapidement d'une prévision de 1 point à une prévision de 0,5. Vous le disiez, l'incertitude est totale. Le 0,5 peut se transformer en 0, comme le carrosse en citrouille. Et puis, structurellement, et là, c'est vrai, on recherche notre modèle économique pour demain.
Exactement.
Alors, c'est vrai de la France, c'est vrai pour l'Europe. Donc, à ce double titre, il faudrait qu'on se réveille. Oui.
Allez, on va tout de suite passer à l'Europe, justement. Comment l'Europe ? Ben voilà, on va vous demander vos conseils, puisque vous critiquez, mais maintenant, il va falloir agir. Comment l'Europe peut-elle s'en sortir ? Au secours, help, l'Europe est sous pression, elle va devoir accepter un mauvais deal, on le sait, hein. Trump a dit qu'on était à 100% sûr d'avoir un deal avec lui, c'est que le deal sera mauvais, pour ne pas fâcher Trump alors que notre croissance est déjà molle. Comme vous le disiez, Hervé, les économistes sont tous abaissés leurs prévisions de croissance sur la France, mais aussi sur la zone euro. Le plan de relance allemand et la course au réarmement, Valentine, est-ce qu'ils peuvent permettre à l'Europe de se relancer ? Est-ce que ça peut suffire ? Est-ce que c'est ça la solution pour l'Europe, se réarmer et le plan de croissance sur les infrastructures en Allemagne ?
Bon, alors déjà, le plan de croissance sur les infrastructures en Allemagne, c'est quand même une très bonne nouvelle, parce que l'Allemagne sort quand même de 2 années de récession, à un modèle économique qui est périmé, donc il est temps de mettre une nouvelle impulsion sur le modèle économique allemand. 500 milliards, c'est énorme, hein. Ça fait 50 milliards par an, c'est 1,2 point de PIB, sans compter n'importe quel effet multiplicateur. Donc c'est monstrueux. Après, la deuxième bonne nouvelle, c'est c'est l'Europe qui veut être plus forte et plus souveraine sur sa défense. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Si on a une défense qui passe, on augmente nos dépenses sur la défense, en passant de 1,9 point de PIB à 3, on dépense 250 milliards en plus. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on est très dépendant de l'étranger pour nos produits militaires. 60%, 80% de nos achats militaires viennent hors de l'Union européenne. Mais si on veut que ça soit positif pour l'Europe de dépenser plus pour la défense, il faut que ça s'accompagne d'un renforcement de notre industrie sur la défense. Et là, ça peut être très, très positif.
Est-ce que ça peut nous sauver ? C'est-à-dire, est-ce que simplement le fait de se réarmer peut nous éviter la récession sur les 5 années qui viennent ?
Mais c'est un ensemble de mesures qui vont nous permettre de nous sauver. Ce n'est pas juste de dépenser plus sur l'armement. Dépenser plus sur l'armement, ça va être très positif si on dépense en R&D. En recherche, en développement. Pour la productivité, parce qu'il y a énormément d'interactions entre le militaire et le civil. Mais ça va aussi demander, si on veut être sauvé, plus de discipline budgétaire en France, plus de discipline budgétaire en Italie, et avoir une meilleure allocation de nos dépenses, beaucoup plus sur l'investissement que sur la consommation.
Hervé, est-ce que ça peut nous sauver ?
En fait,
peut sauver l'Europe aujourd'hui ?
Je pense que c'est une question d'organisation. L'Europe est mal organisée. Et si on prend les points de Valentine, en fait, si c'est l'Allemagne qui fait de la relance, d'abord, elle sera un peu seule dans son coin parce que la France, l'Italie, l'Espagne ne pourront pas suivre.
Mais ça va ruisseler.
Mais dans ce cas-là, ça ruissellera un peu, ça fera un petit peu dans les pays du Sud, ça fera moins qu'on ne le pensait en Allemagne. Non, il faut savoir où on dépense l'argent. Et là, je pense qu'il y a quand même un changement de mentalité à faire en Allemagne. Il ne faut pas dépenser l'argent en Allemagne. Il faut le dépenser au niveau européen pour que, justement, là, cela ruisselle d'une façon optimale pour tout le monde. Je pense que la façon dont on organise cela, les riches font, les autres, ils suivent comme ils peuvent, c'est une façon de ne pas optimiser l'impact sur la croissance.
Ma question, c'est est-ce que, même si, ok, on a compris, il vaut mieux se réorganiser et il vaut mieux que au niveau européen. Si on le fait au niveau allemand, si on fait du réarmement au niveau européen, est-ce que ça peut nous sauver de cette sorte de récession ou déflation à la japonaise annoncée et qui semble inexorable si on ne fait pas quelque chose?
Non mais, une fois encore, pour se réarmer, il faut se réorganiser. Parce qu'il faut que l'on dépense en étant d'accord entre nous et que ça soit très majoritairement du matériel européen. Non, mais pour que ça soit du matériel européen, vous disiez 5 ans, mais le temps qu'on crée les capacités de production le permettant, ça ne sera pas européen. Et donc là, il y a quand même une situation de corner. Je voudrais juste rajouter un point.
Vous en priez, faites comme chez vous.
C'est très gentil, Marc. Je vous remercie de cette sollicitude. En fait, dans ce qui ne... sous le choc des droits de douane que l'on a aujourd'hui, le pays qui subit le ralentissement de croissance le plus important, qui subit l'accélération des prix la plus marquée, ce sont les États-Unis. L'Europe, la Chine, je ne dirais pas qu'ils passent entre les gouttes, mais l'impact sur leur économie est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis.
Mais Hervé, on n'a pas le temps, ce n'est pas le sujet. Vous me provoquez alors qu'on peut faire une émission entière. C'est votre anti-Trumpisme primaire.
Vous m'aviez dit que j'avais le temps, alors je ne comprends plus.
Éric, très rapidement, parce qu'on est à la bourre.
Je pense qu'une des solutions qui a été proposée et qu'il faudrait regarder plus attentivement, c'est celle qu'a proposé le plan Draghi. Mario Draghi, il a parlé d'Europe, il a parlé de solutions à l'échelle européenne avec un choc d'investissement massif de 800 milliards à l'échelle européenne. Il a parlé de réformes structurelles sur la bureaucratie qui était améliorée très clairement, sur les marchés de capitaux,
mais je suis d'accord, mais
sur le financement des entreprises.
C'est les vœux de Miss France.
Oui, mais c'est ce qu'il faut faire.
C'est
ce qu'il faut faire. Mais c'est pas injouable quand même à l'échelle européenne de faire un peu moins de bureaucratie. C'est pas injouable de mettre...
C'est pas injouable, sauf qu'on le dit depuis 20 ans et c'est totalement
injouable. Mais si on le fait pas, on va pas y arriver.
On a les ingrédients, le plan, mais il manque l'action.
Oui. Il manque la volonté.
Et l'action.
Oui, en fait, je pense que la grande période bureaucratique s'est un peu calmée.
Ah oui?
Notamment,
c'est une bonne nouvelle, ça, que vous annoncez.
Oui, parce que quand on demandait aux entreprises de remplir un questionnaire avec plus de 1000 questions sur l'impact environnemental, etc., là, on réalise que ça coûte cher et que c'est peut-être inutile, ce qui est un peu la révolution. Parce qu'avant, on ne se posait pas ce genre de questions. Mais le vrai problème, c'est la démographie. Il n'y aura pas de croissance en Europe tant qu'il n'y aura pas de croissance démographique.
Terminé. Et on n'aura pas de croissance.
Et il n'y aura pas de croissance démographique.
Super. Vous nous avez plombé le moral. Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine. C'est 8% la baisse du dollar depuis le début de l'année. Personne ne l'avait vu venir et on ne comprend pas très bien ce que veut faire Trump. Parce que d'un côté, il veut faire baisser le dollar pour relancer les exportations. Mais d'un autre côté, les Américains ne produisent pas tous les produits qu'ils consomment. Donc, ils seront plus compétitifs. Mais ce qu'on sait, c'est que la hausse des prix va provoquer une inflation parce que ça va provoquer une hausse des prix importés. Et donc, ça aura l'effet contraire puisque ça va peser sur le pouvoir d'achat. Vous comprenez quelque chose, vous, sur la politique du dollar de Donald Trump?
En fait, il voulait faire baisser le dollar, mais il ne le fait pas de la bonne façon. Alors que le dollar baisse, ma foi, lorsqu'on voit, alors c'est un horrible jargon, les taux de change d'une devise contre toutes les autres devises et puis on défalque cela de l'évolution des prix relativement. Le dollar était cher, l'euro était à peu près à son prix et le yuan était faible. Voilà, ça c'était la configuration de départ. Que dans ce contexte-là, on se dise « tiens, le dollar plus faible, c'est pas une mauvaise idée ». Oui. Après, il faut le faire de telle façon que ça n'entame pas la confiance dans la devise. On aurait dit...
Et donc la confiance dans la dette et donc les taux d'intérêt.
Donc, on aurait dit, j'ai une inflation plus faible, j'ai des taux d'intérêt plus bas, tiens, le dollar baisse, on aurait dit, parfait, il n'y a pas de remise en cause de la confiance. Le faire par les droits de douane, on voit bien que la confiance est ébranlée, et il y a des tas de signaux bizarres, les taux longs ont remonté, mais dans le même temps, l'or qui aurait dû baisser a monté, l'écart de taux entre les États-Unis et l'Europe augmente, ça aurait dû faire monter le dollar baisse. Donc on voit bien qu'il y a des questions de confiance. Alors maintenant, comment tout ça va se terminer?
Ah, vous savez.
Oui, moi je
vais. Ah, génial.
Je vais vous le dire.
Content de vous avoir fait venir. J'étais déjà content, mais alors là.
Là, c'est le nirvana.
On est au top.
Non, mais en fait, je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant, c'est avec 71. 71, le 15 août, on casse le lien entre le dollar et l'or. Et en même temps, on met des droits de douane et en même temps, on fait de la relance, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises à faire de l'investissement pour améliorer la compétitivité. Quelque part, ça ressemble à la situation actuelle. Tout ça est fait de façon unilatérale par Nixon. On est le 15 août. Le 18 décembre, eh bien, il y a un accord entre les Japonais, les Européens et les Américains. Les droits de douane sont abandonnés. La baisse de la devise va plus loin. Et donc, en fait, on est un peu dans un scénario de ce genre.
C'est fini comment ?
Ça s'est fini. En fait, alors, il y a un autre élément à prendre en compte. Le keynésianisme était en train de passer de mode. On allait progressivement vers le monde que l'on connaît, plus libéral. Et en fait, c'est quand même le début de la stagflation derrière. Donc, c'est un changement d'époque. Et moi, je le dis et le redis, dans ce que fait Trump, et au-delà de tout ce qu'on ne comprend pas et du sentiment brouillon, il y a aussi un changement d'époque. Non, je pense que...
Il est partagé
Il est partagé par beaucoup, mais pas par vous, Marc, je le sais.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec le dollar, vous comprenez quelque chose? Parce que vous, qui êtes une spécialiste des taux, on voit bien qu'une baisse du dollar, normalement, c'est pas très bon pour les taux d'intérêt, donc c'est pas très bon pour l'économie américaine.
Ce qui est très amusant, là, c'est que dans ce mouvement sur le dollar, c'était un mouvement un peu averse au risque, c'était un mouvement averse au risque sur les marchés financiers. On y a vu à la fois un dollar baisser et des taux longs monter.
C'est ça qui est super amusant.
Il
y a des trucs qui vous amusent, qui sont étonnants.
C'est intéressant parce que d'habitude,
le dollar,
normalement, et les trésoriers américains, ce sont des valeurs refuges. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on achète de la dette américaine parce que c'est une valeur sûre.
On aurait dû faire comme dans les séries où il y a des rires.
D'accord, ok.
Bon, donc ça, c'était très drôle. Ensuite.
Ce qui est amusant, c'est que le dollar aujourd'hui, la dette américaine n'a pas été, pendant cet épisode, considérée par les investisseurs comme une valeur refuge.
Non.
On voit que les investisseurs se disent, oula, il y a peut-être un sujet de gouvernance sur l'économie américaine, ou est-ce que la politique de Trump n'est-elle pas en train de remettre en question l'exceptionnalisme américain? Et c'est pour moi vraiment cet exceptionnalisme américain qui aujourd'hui est remis en question.
Mais je l'entends beaucoup, ça veut dire quoi en fait? Remettre en cause l'exceptionnalisme.
Cette croissance américaine.
On se croirait dans les échos là.
Ouais. Bon, c'est pas très gentil ça.
Ah si, c'est un bon journal quoi.
Oui, c'est un bon journal. Cette croissance qui était quand même toujours au-dessus du potentiel, révisée à la hausse ces dernières années. Pourquoi? C'est parce qu'on avait un gouvernement qui dépensait, on avait de l'investissement, on avait des gains de productivité, on avait des marges des entreprises qui ne cessaient de monter. Est-ce qu'on voit toujours les marges des entreprises continuer de monter dans cet environnement aux États-Unis? Bien non. Et puis on avait un marché action qui performait, de l'effet richesse. Était toute cette séquence qu'on peut appeler l'exceptionnalisme américain, qui aujourd'hui peut être remise en question avec la politique de Donald Trump.
Parce qu'il y a des gens qui essayent de comprendre ce qu'il fait, j'en fais partie, est-ce qu'on peut considérer que le fait d'accepter un ralentissement de la croissance, voire une année d'austérité, c'est finalement pas une bonne méthode? Jean-Marc Daniel, je le répète toujours ici, dit, en fait, il y a une forme de croissance qui n'est pas vertueuse. C'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Et ben la croissance américaine par la consommation qui implique des importations, je caricature, de produits chinois, c'est mauvais pour la balance des paiements courants, donc c'est mauvais pour l'économie. Non. Et donc moins de croissance, c'est peut-être mieux.
Mais c'est sûr que le modèle américain centré sur la consommation n'est pas le meilleur modèle. Ça, je crois que c'est tout à fait vrai.
Centré sur la consommation de produits importés, entre autres.
Sur la consommation de n'importe quoi.
Si vous produisez vos propres produits, c'est pas très grave d'être centré sur la consommation.
Oui, mais enfin, après, il y a des produits qui ont un contenu en idées, en choses nouvelles importantes. Quand c'est de la consommation courante, c'est pas le cas. Et il faut pas oublier que sur les dernières années, l'économie américaine a été shootée par la dépense publique. C'était du keynésianisme poussé à bout. C'était pas tenable. Donc, d'une façon ou d'une autre, le ralentissement, il était pour demain. On dirait juste que Trump accentue un peu le ralentissement.
Mais un ralentissement peut être bénéfique. On l'a vu en Grèce, on l'a vu en Italie, on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Espagne. Oui ou non?
Oui, mais il y a une purge et il faut savoir gérer socialement, politiquement la purge avec l'antagonisme qui règne aux États-Unis aujourd'hui. Bonjour la capacité à gérer cette purge.
Donc vous dites ça peut ne pas être mauvais, mais il va falloir passer par une période de transition qui peut être douloureuse.
Peut être très douloureuse.
Et longue.
est longue. Comme le week-end de 3 jours que vous avez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission. Surtout ne partez pas parce qu'il y a plein de surprises.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission. On va parler évidemment de droits de douane, mais on va parler beaucoup de bourse, on va parler de BCE, on va parler de banque centrale et on va parler des gérants avec Valentine Hennouz, avec Eric Blaine, avec Hervé Gouletkier, avec William Higgins. Et on attaque tout de suite les marchés. C'était encore très volatile cette semaine. On reste avec un CAC 40 qui, malheureusement, avait démarré l'année en fanfare, mais qui est négatif. Le S&P qui est en baisse de 10%, le Nasdaq 15%, l'Eurostock en hausse, toute petite hausse, 0+, le Nikkei en baisse de 13%, Shanghai 2%, le MSCI World 6% de baisse, avec une semaine qui a été marquée par une volatilité qui a quand même été assez forte, beaucoup de mouvements, on l'a dit tout à l'heure, sur les taux d'intérêt, beaucoup de mouvements sur le change. Eric Blaine, la bourse, elle va monter ou elle va baisser?
Je pense qu'il y a quand même pas mal
de droit de savoir.
Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de mauvaises nouvelles quand même qui sont dans les cours et l'avertissement des taux d'intérêt et du dollar, je pense, va freiner les folies de Trump. Ça va le calmer. Et donc, comme la bourse est très négative, la psychologie a quand même bien changé depuis ce début d'année, il est possible quand même que ça se calme et que la bourse reprenne ses esprits sur la base des publications qui sont en train de se faire.
Alors, attendez, j'entends ce que vous dites. On vient de dire ralentissement économique, on vient de dire éventuellement hausse des droits de douane, donc profitabilité des entreprises qui vont devoir absorber une partie de ces droits de douane, sure, et pas les passer aux consommateurs. S'ils les passent aux consommateurs, c'est la consommation qui trinque. Comment on peut avoir un rebond de la bourse?
L'allocation d'actifs. En fait, il y a tellement d'argent qui est parti aux États-Unis, et ça a été tellement puissant en fait à fin décembre, enfin sur toute l'année 2024, hein, mais pas que il y a de l'argent qui peut revenir en zone Europe, en zone euro.
Donc là, c'est ce que vous nous dites, c'est plutôt la bourse européenne, mais la bourse américaine.
Là, on ne rajoute pas d'argent en ce moment sur les États-Unis.
La bourse, ça va faire quoi? Ça va monter ou baisser, William Higgins?
Non, mais il n'y a aucune logique en bourse. Donc,
ok, mais quand même.
Non, mais disons, il n'y a pas de corrélation entre l'activité économique et la bourse.
D'accord.
Pendant longtemps, j'ai cru qu'on anticipait, mais en fait, on aurait pu dire également qu'on était en retard, parce qu'il n'y a pas de corrélation évidente.
Il y a une corrélation à la liquidité, quand même, de marché. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Quand les taux sont très bas, il y a de l'argent.
Non, quand les gens pensent que l'année prochaine sera meilleure que cette année, la bourse a tendance à monter.
Mais vous ne pensez pas que quand il y a beaucoup d'argent dans le circuit, comme on l'a eu avec les taux d'intérêt négatifs, la bourse monte parce qu'il
n'y a, il y a rien d'autre à faire.
Il n'y a pas d'alternative.
Oui,
c'est le fameux TINA de l'époque, « There is no alternative ». Donc ça, vous êtes d'accord qu'il y a une corrélation avec la liquidité ou pas?
Exact, oui.
D'accord. Et là, vous nous dites quoi sur si vous avez un vieux copain qui vous croise et qui dit... la bourse va monter ou baisser, vous lui dites quoi?
J'en sais rien, mais je n'ai jamais su.
D'accord. Et il ne se vexe pas?
Non.
Vous n'avez pas de copain, en fait?
Comme ça, après... comme ça, après, il ne me reproche pas ce que j'ai dit 2 ans après.
Sur les taux d'intérêt, puisque j'ai une spécialiste internationale des taux d'intérêt, je vais en profiter, elle parle de macroéconomie, elle parle de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt américains, on a bien vu que le marché considérait que c'était vraiment un sujet quand on s'est approché des 4,5%. Certains ont dit même que c'était la raison pour laquelle Trump a fait machine arrière sur les droits de douane. Qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt? C'est l'élément le plus important. Les taux d'intérêt aux États-Unis, les taux d'intérêt en Europe, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux de 0,25. Ouais. Trop peu, trop lentement. Je vous laisse commenter, Valentine.
Déjà, la dette américaine, c'est un sujet. La dette américaine a beaucoup augmenté sur les dernières années, hein, depuis le Covid, plus 30%. Et ce qui est surtout un sujet, c'est que durant la période de Biden, ils ont énormément émis sur la partie courte de la courbe. Parce que, rappelez-vous, l'été 2023, on avait les...
Donc la partie courte de la courbe, ils ont emprunté de l'argent à moins d'un an.
Ils ont émis à moins d'un an. Parce que, rappelez-vous, pendant l'été 2023, ils avaient besoin d'émettre, ils ont décidé d'émettre sur la partie longue, au-dessus de 10 ans, et puis là, il y avait les taux qui avaient fortement, il y avait une volatilité très forte sur les taux longs. Ils se sont dit, oh, pas de problème, on va émettre sur de la maturité à moins d'un an. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 30% de la dette américaine qui arrive à maturité sur les 12 prochains mois. Et avec des taux qui sont beaucoup plus élevés. Le coût moyen de la dette aujourd'hui est de 3,3%, alors que la dette américaine aujourd'hui, ils vont se refinancer sur du 4,5. Donc ils vont avoir une augmentation très très forte de leur coût moyen de la dette. Si on peut se féliciter sur la France, c'est le budget mal géré, la dette française est extrêmement bien gérée. On n'est pas dans cette configuration-là. Donc
c'est l'avantage d'en avoir depuis 50 ans et en fait c'est notre activité principale. C'est quand même notre activité principale, gérer de la dette.
Oui, on va dire ça. Et les paiements, le coût de la dette, ça va représenter un quart des recettes de l'État américain. Donc c'est assez monstrueux. Donc ils ont un vrai sujet avec leur dette et un vrai sujet à très court terme. C'est pour ça que l'État américain aujourd'hui est très concentré sur faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Il y a un fantasme sur le fait que la Chine peut peser sur le marché de la dette. La Chine, c'est 2,5% de la dette américaine.
Ça peut jouer à la marge.
Ça peut jouer à la marge. Mais aujourd'hui, quand même, si les taux dérapaient, la Fed interviendrait.
Pour moi, la Fed intervient. Et déjà, le vrai sujet, plus que la Chine et détention de titres du Trésor par la Chine, le vrai sujet pour moi, c'est ses besoins de refinancement extrêmement forts à court terme et peut-être la faible marge de manœuvre qu'auraient les États-Unis pour un plan de relance avec un ralentissement
d'où
très fort.
D'où l'idée pour Trump de virer Powell et de mettre quelqu'un qui serait plus favorable.
C'est pour ça que le coût moyen est très très sensible au niveau des taux de la Fed. Extrêmement, puisqu'ils sont sur une dette à moins d'un an.
La BCE, pour moi, c'est vraiment désespérant. C'est-à-dire qu'on aurait dû baisser très rapidement il y a plus d'un an. On savait qu'il allait avoir, pas d'avoir d'inflation, on savait qu'on allait avoir une croissance. Ça fait 2 ans que l'Allemagne est en récession. Elle continue à baisser à tout petit pas, mais ça vous désole pas, vous ?
Non.
Hervé Goulet-Fier ?
Non, ça ne me désole pas. Dire que ça fait très longtemps que sur l'inflation, on savait où on allait.
Plus d'un an.
Je pense que ce n'est pas vrai.
Si,
lorsque,
vrai.
Je ne crois pas, Marc, lorsque l'on voyait la productivité, si, quand on voyait les coûts salariaux unitaires, quand on voyait le prix des services, il y avait quand même des éléments qui obligeaient à une certaine prudence. Aujourd'hui, la feuille de route de la BCE est beaucoup plus facile que celle de la Fed américaine, parce que du côté de l'inflation...
Et pourquoi elle n'y va pas ?
Mais parce qu'on est à 2,25 sur le taux de dépôt européen, 2,25 avec l'imaginaire que l'on a à la BCE en termes de perspective de croissance. Imaginaire, c'est le mot que j'ai employé.
Ah oui. Ce n'est pas des prévisions, mais on ne peut pas fonctionner avec de l'imaginaire.
Non mais parce que vous faites une énorme différence entre une prévision et de l'imaginaire.
Oui.
Vous êtes naïf, Marc, il faut quand même grandir là.
Non mais quand on attend un mois de façon très sérieuse, un mois et demi, 2 mois de plus pour un chef d'entreprise, c'est beaucoup de temps, c'est du temps et c'est des commandes en moins, c'est du chiffre d'affaires en moins et c'est des salaires qu'il faut payer quand même chaque mois.
Mais si on raisonne en termes de coût de l'emprunt pour une entreprise, je dirais que le substrat de base, si tant est que ça soit une référence court terme, un taux de dépôt à 2,25, c'est pas spécialement cher dans l'environnement actuel. Alors après,
quand vous avez zéro de croissance, il y a pas d'inflation.
Après, non mais après,
il y a 2% d'inflation.
Hein, après, il n'y a pas 2% d'inflation. Les chiffres sont faux.
Mais si on ne partage pas le référentiel, le dialogue va être un peu compliqué.
c'est le but.
Donc, non mais en fait, moi,
on a changé d'époque. C'est le nouvel exceptionnalisme américain.
Moi, je pense que en matière de taux d'intérêt, c'est la perception du risque par le système bancaire, par les marchés de capitaux, qui compte plus que le taux de la banque centrale. À 2,25, à mon avis, on est à peu près dans une zone neutre. Alors, est-ce que l'on soutient fortement l'activité avec du 2,25? Non, mais on ne peut pas accuser la BCE d'être restrictive aujourd'hui.
Elle l'est.
Non, je pense que c'est excessif, Marc.
C'est excessif, mais prénom.
Hein?
Excessif, c'est mon deuxième prénom. Donc, c'est logique.
On vous appellera comme ça maintenant. Marc Excessif.
Allez, on passe tout de suite à l'allocation d'actifs dans cette tempête. Justement, qu'est-ce qu'il faut? Comment on se protège? Quelle allocation choisir? Alors, si le même copain à qui vous avez dit, je sais pas si la bourse monte ou baisse, vient vous voir en disant j'ai de l'argent à placer, vous lui dites quoi? Vous lui dites, où est-ce que tu dois mettre ton argent? Vous lui dites dans mon fonds?
Comme d'habitude.
Non, mais aujourd'hui.
Pour être clair, il faut pas faire de market timing, c'est-à-dire on ne sait jamais si la bourse va monter ou descendre.
Okay.
Donc globalement, le meilleur placement c'est la bourse. Donc il faut être, si on est très courageux, on est 100% en bourse, mais tout le temps.
100% en bourse tout le temps. C'est vraiment votre conseil, ça ?
Ouais.
C'est-à-dire même à des gens qui ont un profil prudent ou équilibré, comme on dit dans les compagnies d'assurance.
Oui, mais ils sont sûrs de perdre de l'argent s'ils sont capables de tenir 5 ans.
D'accord. Donc, s'ils sont pas capables ils sont sûrs de perdre...
Non, mais s'ils sont capables de tenir 5 ans, la bourse battra pratiquement tous les autres placements.
D'accord. Et 5 ans, ça dépend quand. Hein. Franchement, on a eu des périodes, si vous étiez rentré en 98, vous n'aviez pas retrouvé vos billets avant un petit moment quand même. Okay. C'est peut-être pas 5 ans. Et par exemple, quand vous dites, vous êtes géant, vous voyez bien quand même qu'il y a des placements de taux d'intérêt qui rapportent du 5, du 6 %. Vous ne dites pas, mettez 30 % là-dedans au moins, parce que ça...
Alors, à titre personnel, ce qui est quand même intéressant, moi je suis conforme à ce que je pense, j'ai jamais eu d'obligation.
Jamais.
Ouais.
D'accord. Même en 81, quand ça valait 17%. D'accord. Eric Ben, qu'est-ce que, à vos clients qui sont monstrueusement riches, qui arrivent chez Swiss Life Gestion Privée, vous leur dites que quoi?
On investit un peu plus vite les actifs qui arrivent. Okay. On dit ça et on fait pas mal de choses, en fait. D'abord,
allez-y.
On leur dit, et ça, j'ai eu pas mal de clients au téléphone, on leur dit, vendez pas actuellement.
Okay.
Première chose. On garde les actifs qui sont aux US, on garde les actifs qui sont sur la tech.
Ils pas de panning.
Pas de panning. Première chose.
Première chose.
Deuxième chose, on diversifie. C'est-à-dire que là où il y avait quand même beaucoup d'argent qui allait aux États-Unis, il y en a moins qui va aux États-Unis, il y en a plus qui va vers l'Europe et l'Allemagne en particulier. On avait quand même un biais français important, on essaie de le diversifier vers l'Allemagne, notamment, mais l'Espagne et l'Italie aussi. Et puis, on reprend de la Chine. Et enfin, sur la partie obligataire, alors là, donc on n'est pas du tout intéressé par les obligations souveraines, mais on prend des obligations
alors,
d'entreprise.
Expliquez ce que c'est pour les gens qui savent
pas. C'est-à-dire les emprunts d'État. Donc les États sont très...
Expliquez pour
sont
Valentine.
Très endettés, surtout pour Valentine, j'imagine. Donc on prend des obligations d'entreprise. Je vais faire un peu de pub à travers notre fonds, le fonds Income Euro Sélection.
Ouais. Et vous gênez pas surtout.
Qui n'a pas de, merci. Qui n'a pas d'obligation souveraine. Et on trouve qu'il y a dans la zone euro des entreprises qui sont riches en cash, qui ont des liquidités, qui ne fonctionnent pas si mal que ça, même s'il y a un peu de baisse de marge, c'est pas très grave. Elles vont rembourser donc normalement leur crédit. Et du coup, ça vaut la peine d'avoir un extra rentabilité par rapport aux obligations d'État de les acheter, et surtout en ce moment, parce qu'elles viennent de baisser.
Et comme vous êtes suisse, vous proposez de l'or aussi ou pas?
Alors l'or, pour le
qu'est-ce
coup...
Qu'est-ce que dit Swiss Life sur l'or?
Sur l'or, ce qu'on dit, c'est que on trouve que c'est un actif intéressant parce que, évidemment, quand les choses vont mal, ça monte, mais il vient de monter. Donc, on n'achèterait pas maintenant. Pour le coup, on aurait plutôt tendance à prendre de profit.
Valentine, quand vous entendez William Higgins qui dit, sans provocation, puisqu'il le dit, j'ai fait ça pour moi, j'ai jamais acheté un produit tôt, ça vous inspire quoi? À part le fait que si tout le monde faisait comme lui, vous seriez au chômage.
Merci. Non, bah, après, chacun est libre.
Non, mais c'est intéressant. Est-ce que vous avez un argument? Il dit, non, pourquoi j'achèterais des produits tôt, puisque sur la durée, les actions surperforment les produits tôt.
Après, ça dépend le profil de chacun. Hein, et avoir quand même une poche obligataire, ça permet de contrebalancer ce risque.
C'est pas ce que dit William. William dit, même quand on est prudent, en fait, sur 10 ans, sur 15 ans, on va retrouver son argent. Donc, pourquoi faire autre chose?
Il y a une façon d'avoir la performance maximale ou d'optimiser le couple rendement-risque. Je pense que quand on veut avoir peut-être une performance maximale, on n'a que des actions. Mais si on veut avoir une optimisation du couple rendement-risque, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir une diversification, et notamment sur l'obligataire, qui est quand même, quand normalement on a un environnement économique qui souffre, on a les actions qui sous-performent et on a les obligations qui surperforment. Donc ça permet certes de ne pas avoir le même rendement que si tout était sur les actions, mais ça permet quand même d'avoir un couple risque-rendement plus équilibré.
Alors vous, votre réponse sur le risque, c'est de dire je fais de la value.
Effectivement, ça aide.
C'est ça, parce que globalement, vous dites, moi j'achète des choses qui ne sont pas très chères, donc je ne suis pas dans le risque maximal du marché boursier, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire, si vous achetez des sociétés à 40 fois le résultat, vous pouvez avoir un potentiel de perte énorme.
D'accord.
À 5-7 fois, a priori...
5-7 fois les résultats, ça,
c'est à peu près couvert.
C'est le niveau auquel vous achetez.
Si je peux.
Hervé?
Non, mais en fait...
Vous voulez parler de bourse, maintenant? Allez-y, Hervé.
La parole se libère.
Oui, j'ai bien vu.
En fait, pour répondre à William, moi j'ai quand même l'impression que, c'est vrai, il y a de longues phases où on peut rester sur des placements actions, ça rapporte, mais aussi de longues phases, parce que l'environnement économique est un peu particulier, où il ne se passe rien. Quoi. On entre en bourse en début d'une phase de stagflation, on parlait de 71, quand même pendant de longues années, la bourse souffre, et après il y a 81, et cela repart. Mais n'empêche que, je pense que le moment où on démarre le processus, ça...
cela compte beaucoup.
10 ans, Dow Jones, début des années 70, début des années 80, il était à 1000.
Ouais, c'est ça.
Il est resté à 1000. Valentine, quel est votre top ou flop de la semaine, Valentine?
Alors, mon flop, c'est Nvidia.
Oui.
Nvidia avec
l'administration. Le chouchou de tous les investisseurs.
Le chouchou des investisseurs. Exactement, qui est aujourd'hui pénalisé par la guerre commerciale, où on voit que l'administration Trump a restreint les exportations de puces, certaines puces. Et c'est vraiment pour moi cet exemple pour illustrer que le fait de vouloir relocaliser une partie de la production aux États-Unis n'a aucune justification économique, mais cela a une justification en termes de sécurité nationale.
Éric, le top ou le flop pour vous?
Moi, je suis parti à la recherche de la poule aux œufs d'or, puisque ce week-end, on va chercher des œufs. Donc voilà. Et donc, je suis allé trouver, en fait, le groupe de luxe côté en bourse s'appelle Hermès. Hermès, qui vient de passer, donc, cette semaine, première capitalisation boursière du CAC 40. Ouais. Et ça, c'est impressionnant parce que LVMH, donc, c'est 240 milliards de capi. Hermès est passé au-dessus. Et le chiffre d'affaires, le profit de LVMH, c'est 12,5 milliards de profit. Et le chiffre d'affaires d'Hermès, c'est 15 milliards. Et donc, on cote plus cher aujourd'hui qu'une entreprise qui fait moins de chiffre d'affaires que,
Ouais, bien sûr.
Ouais, six fois. Donc, c'est quand même très impressionnant.
William Higgins, vous avez du Hermès dans votre portefeuille?
Non, jamais.
Vous ne pourriez pas.
Ben, si, j'ai dû en avoir tout à fait au début de la cotation.
Mais aujourd'hui, impossible pour vous d'acheter
impossible,
comme ça.
Oui.
D'accord. Mais vous avez manqué toute la hausse, c'est pas grave?
Non, mais ça fait partie du système,
D'accord. Il faut pas se poser de questions.
Il faut pas se poser de questions.
Hervé? Top ou flop?
Alors, c'est un flop avec un angle investisseur. Oh. Ce sont les menaces de Trump de licencier Powell. On en a parlé. Il y a déjà une confiance dans les marchés américains qui est ébranlée. Ajouter un doute supplémentaire en se disant l'indépendance du président de la principale agence des États-Unis, la Banque centrale, tout ça peut être mis en cause. On peut avoir toutes les convictions que l'on veut sur le sujet. Marc, le faire hic et nunc, ici et là-bas plutôt, je pense que c'était très maladroit.
Il n'a rien fait.
Il en a parlé et un peu trop.
Il l'a évoqué, il a envie de le faire, mais il ne peut pas le faire pour l'instant. William.
Alors le top, c'est Emmanuel Macron.
Ok. Ah ouais.
Qui a réussi.
Vous n'êtes pas sur la bonne émission alors.
Oui, qui a réussi à réunir tout le monde autour de la table, c'est-à-dire l'Europe, l'Ukraine et les États-Unis, ce qui était inenvisageable il y a à peine une semaine.
D'accord. Alors je pense qu'en termes d'organisation d'événementiel, on est très très fort et on est une très belle boîte. On a l'Élysée qui pourrait être une boîte d'événementiel, mais le résultat?
Le résultat, Rubio a dit que peut-être Trump allait abandonner l'idée de faire la paix en quelques jours.
C'est pas une très bonne nouvelle, ça, si.
Vu qu'il avait, disons, trahi complètement l'Ukraine pour obtenir cette paix en quelques jours, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Très bien. Allez, on passe tout de suite au top 3 et événements rares. On a deux des membres du podium qui sont sur le plateau aujourd'hui. William, vous êtes en tête avec 18,75%. Ça fait plusieurs mois que vous êtes en tête. D'ailleurs, bravo. En fait, depuis que les États-Unis et la tech a décroché. Eric aussi, bravo. Et Stéphanie Moger qui est en 3. C'est le choix de vos valeurs, Eric, qui fait que... Enfin, votre style de gestion qui fait que vous brillez moins dans les périodes où la bourse américaine est flamboyante.
Alors, moi, j'ai un style conviction, c'est très clair. Et je fais attention à la valorisation. Alors, au moment où la tech américaine s'envole... Alors, pas autant que William, quand même, parce que lui, il est vraiment intransigeant sur les valorisations. Moi, je regarde quand même les perspectives et je donne une valorisation plus élevée à certaines entreprises. J'ai, par exemple, du Hermès en portefeuille et je m'en porte plutôt pas mal.
D'accord. Et vous, ça vous choque pas d'avoir du Hermès et de continuer, on l'a pas en portefeuille chez nous, mais d'avoir du Hermès et de continuer avec des valorisations et des PER, enfin des rapports de...
Tant que la croissance est là, ça ne me choque pas. C'est une conviction forte.
L'argument croissance, William, c'est quand même important. C'est-à-dire que tant que la croissance est là, ce que dit Eric, on peut payer plus cher une entreprise, vous êtes d'accord, s'il y a de la croissance?
La réponse est non.
D'accord.
Non, mais en fait, quand je regarde ce qu'on fait, hein, parce que c'est quand même, ça détermine quand même mes réponses. Disons, pour nous, on ne peut pas prévoir la croissance au cours des prochaines années.
D'accord, carrément.
Voilà. Donc, en revanche, donc on achète des choses pas chères en espérant qu'elles auront une croissance correcte. D'accord. Voilà. Et par ailleurs, quand le titre commence vraiment à monter, on le garde en portefeuille en s'allégeant progressivement. Et si la vitesse de progression est loufoque, comme ça s'est passé sur Rheinmetall, on peut se retrouver, mais c'est vraiment l'accident, j'ai jamais fait ça sauf cette année, avec un price earning de 40 sur Rheinmetall.
Vous arrivez à vivre avec ça, d'avoir en portefeuille?
Et je dors très mal.
Vous dormez très mal avec ça.
Mais bon, ils ont un carnet de commandes béton, et si vous êtes optimiste, dans 3 ans, ils auraient un price earning de 15.
La perf qu'on voit chez nous, c'est la perf que vous avez sur les fonds à peu près depuis...
Non, je ne sais pas, 18%. Non,
sur un an, vous êtes
à... La France est à 10... Alors, sur un an glissant, je ne sais pas.
D'accord, l'année dernière...
L'année dernière, on était un peu mieux que l'indice sur la France, okay. Nettement mieux sur l'Europe. Okay. Cette année, sur l'Europe, on est à plus 10.
Ok, c'est pas mal. Allez, Eric Blaine, votre portefeuille, je vais demander une musique qui fait peur, parce que je veux vous faire peur. Hein. La France vous regarde, vous avez du SPI, vous avez du Pernod Ricard.
Je garde aussi.
Vous avez du OP Mobility.
Oui, c'est compliqué, mais je garde quand même.
Vous avez du Société Générale.
Ça se passe plutôt bien, je garde.
Vous avez du Vinci.
C'est plutôt très bien, je pense.
Vous avez de l'Exosens.
Ça se passe très très bien.
Biomérieux.
Je garde aussi.
Stellantis.
Stellantis, de 7% de rendement. Et 15 milliards de cash au bilan, et Khan, qui est donc le patron d'Agnelli, qui reprend les rênes du pouvoir après que Tavares a été dans une
période compliquée. Oui, mais la voiture, ah bah... avec BYD, avec tous les Chinois qui vont déverser leur poubelle à prix chez nous.
Bien sûr.
On est mort, non?
Je crois pas. Je pense que Stellantis a des moyens industriels et des moyens de lutter. Pour le coup, avec la Chine, BYD, ils sont pas du tout présents en Chine. Et ils produisent même en Chine et ils importent en Europe. Donc ils profitent en fait des importations potentielles de la Chine vers l'Europe. Stellantis, c'est pas si mal que ça.
On a du Vallourec et du Wallix.
Oui, Wallix, je garde. Vallourec, c'est sorti.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'on achète alors?
Moi, j'achèterais bien Safran. Donc ça, c'est pas forcément une entreprise donnée.
Ah non, attendez, vous avez de la FDJ aussi.
FDJ, oui, j'aime bien. 7% de rendement, c'est très bien.
Qu'est-ce qu'on achète alors? Safran.
Safran.
Oh oui.
L'aéronautique.
La défense.
L'aéronautique.
Okay.
Civil, essentiellement. Un petit peu de défense. Une valorisation qui n'est pas forcément donnée, mais elle est, historiquement parlant, plutôt un point bas. Je sais pas pourquoi, mais le marché, avec la baisse du dollar, il a vendu les valeurs aéronautiques. Donc on est à autour de 22 fois en termes de PER. Vous ça, c'est cher pour William. Ça, c'est
William,
sûr.
William, il va,
mais par
va
rapport
quitter,
à son historique.
William va quitter le plateau.
Mais par rapport à son historique, on était plutôt historiquement autour de 28-30. Fois. Donc on est bien moins cher avec des perspectives qui restent exceptionnelles. On a une visibilité sur l'aéronautique civile qui est très bonne. Donc
William, vous êtes en tête avec un petit portefeuille puisque vous étiez venu deux fois. Vous avez du Jacquet Metal Service.
Bon, Jacquet, on peut garder parce qu'il y a une forte décote sur le fonds propre.
Bien sûr. Vielle.
Vielle, ça marche toujours très bien. Et plus c'est volatile, mieux c'est.
Esso,
on peut lâcher.
Ah, on lâche. Oui. D'accord, on a gagné 25% depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu'on achète, William?
Alors, on peut acheter du groupe Guilin.
Okay.
C'est des barquettes plastiques. Ça se vend 8 fois le résultat net, mais ils font aussi des barquettes en carton. Donc, le marché sous-estime la capacité de passer au carton. On peut acheter du Gel Evans, price earning de 7. Société qui fait très peu d'erreurs depuis une dizaine d'années.
Ouais, et puis vous aimez bien l'événementiel, vous aimez bien Macron, donc chez Evan, c'est un peu dans la même. Vous êtes toujours dans la même thématique, en fait, les grands événements.
Et sans grande conviction, on peut acheter du Havas.
Bah, si vous n'avez pas de conviction, il ne faut pas nous le dire, non?
Non, je ne vous le dis pas.
Alors, allez, on oublie Havas. On a du Score?
Du Score, alors pourquoi? Là, c'est le côté spéculatif. La valorisation n'est pas très élevée. Il y a eu déjà 2 tentatives d'OPA sur Score. Pour moi, quand il y en a 2, il y en a obligatoirement 3. Néanmoins, c'est risqué parce que le portefeuille vit aux États-Unis et est difficile à évaluer.
Et The Navigator Company, c'est quoi ça?
The Navigator, c'est une société papetière portugaise, complètement intégrée, de la forêt au papier graphique, qui a un price earning de 8, qui est beaucoup moins volatile que la plupart des papetières européennes. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir ça en portefeuille.
La valeur dans votre portefeuille actuellement qui a le PER le plus bas, ça, vous avez ça en tête ou pas? Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Mais
ah oui, mais alors là, c'est les catastrophes. C'est E Autoliner.
D'accord.
C'est une Norvégienne qui doit avoir un price earning de 3 aujourd'hui, qui transporte notamment des voitures à destination des États-Unis. Le marché est complètement déprimé.
Donc ça, il ne faut pas l'acheter, ça, là.
Quoi ?
Il
ne
faut pas l'acheter, ça, là. Elle
est
pas chère.
Moi, je l'adore, mais je n'ose pas la conseiller, parce que j'ai complètement tort depuis à peu près un an. Disons, s'il n'y avait pas des problèmes de compliance, je l'achèterais bien à titre perso.
Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. Merci d'être venus pour ce week-end prolongé. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Vous pouvez me poser des questions d'économie ou de placement sur marc@bfmbusiness.fr. Je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous voir et nous revoir en replay, en podcast, sur toutes les bonnes plateformes pour que nous battions un nouveau record en 2025.